Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, l'Évangile est particulièrement extraordinaire et remarquable parce qu'il s'adresse aux plus grands pécheurs, ceux qui sont rejetés de tous, ceux qui sont considérés comme perdus sans espoir, pour leur dire de la part de Dieu que s'il y a dans leur cœur la repentance et la foi, le salut et le plein pardon leur seront accordés par la pure grâce et miséricorde du Seigneur. Quel privilège de pouvoir encore proclamer ce message ce soir, en rappelant qu'aujourd'hui encore, le Seigneur Jésus est le bon berger qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Voici un témoignage authentique encore, celui-là, à nouveau comme ceux que nous donnons de manière régulière, et on pourrait appeler ce témoignage le Noël d'un prisonnier. Voici ce récit. Déporté en 1942, dans un train à bestiaux, vers l'Allemagne et ses camps de concentration, Erino d'Apozzo se disait en lui-même « Dieu ne fait pas de faute. Il me conduit parce qu'il a du travail pour moi dans les camps, évangéliser. Il sait pourquoi je dois aller là-bas. » Quelle épreuve dans ces camps! Quelle douleur! D'Apozzo, en peu de temps, ne pesait plus que 39 kilos. Et puis vint Noël. Noël avec la faim et le froid. Noël dans la solitude affective, loin des siens. Les prisonniers n'étaient autorisés à écrire à leur famille que deux fois par an, 25 mots. Couchés dans la paille, grelottant de froid, 4000 hommes en baraque. Beaucoup pleuraient. Soudain, le gardien-chef, un homme terrible, sans pitié, fit irruption dans la baraque et cria le numéro « Intel ». C'était celui de D'Apozzo. Quand un prisonnier était ainsi appelé, on ne le revoyait plus. Il était fusillé ou exterminé d'une façon ou d'une autre. Il le conduisit chez le commandant, chef du camp. Quel luxe ! Il faisait chaud. La table était ornée d'une nappe blanche et de fleurs. Le commandant de camp, dans un bel uniforme, était assis devant un véritable festin. En face de lui, il y avait un deuxième couvert et un siège vide. « Tiens, le commandant-chef m'invite à dîner avec lui », se dit avec ironie D'Apozzo. « Quelle erreur ! Garde à vous !» lui cria-t-il en allemand, avec un mauvais sourire. D'Apozzo était torse nu et pieds nus. Pendant une heure, il dut assister dans cette position au dîner du chef de camp en spectateur. « C'était un protestant, comme moi, remarquait D'Apozzo. Mais de nos jours, il y a deux sortes de protestants, ceux qui ont la communion avec Dieu et ceux qui ne l'ont pas. Et il mangeait, ce chef, bruyamment, pour faire enrager le prisonnier affamé, manifestant sa satisfaction par toutes sortes de remarques provocantes. « À votre santé ! C'est bon ! C'est délicieux !» À ce moment, dans le cœur de D'Apozzo, il eut un terrible combat. Le diable vint le tenter en susurrant ces mots. « C'est épouvantable, D'Apozzo, un brave homme comme toi. Si Dieu existait, il ne permettrait pas cela. »« L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, dit le psaume 23. Tu crois qu'il est vrai ? Tu manques de tout. Et le chef de camp, lui, il a tout, tout. » « La parole de Dieu, c'est pour le passé. » La lutte dans son cœur se faisait intense. Le doute le tourmentait. Soudain, il pensa à l'apôtre Paul qui souffrit lui aussi, la faim, la nudité, les coups, la prison, et qui disait « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur !» Et encore « Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu !» Quel réconfort que ces paroles! Le Seigneur était venu à son secours, et la parole de Dieu lui avait insufflé une force merveilleuse, surnaturelle. Mais l'épreuve n'était pas finie. Il restait le dessert. Sur la table, il y avait un petit paquet de gâteaux que D'Apozzo fixait depuis longtemps. Le commandant du camp sonna. On lui apporta un café dont l'arôme emplissait la pièce. Depuis 2 ans, D'Apozzo n'avait pas senti la délicieuse odeur du café. Il était toujours au garde à vous et le temps s'écoulait lentement. « Ils sont bons, les petits gâteaux de votre femme. C'est la 7e fois qu'elle en envoie de Paris. C'est une excellente cuisinière, votre femme. » Cet homme jouait une comédie sinistre, sadique. « Il a un but, se dit D'Apozzo, me mettre en colère. » Il voyait en pensée sa femme et ses enfants se priver pour lui venir en aide et confectionner pour le fortifier ses gâteaux. Et cet homme vil les dévorait devant lui. Alors le diable vint à nouveau à lui. La tentation fut terrible. « Hais-le, D'Apozzo ! Quel combat !» La sueur perlait sur son front. Mais il savait que dans la parole de Dieu, il est écrit « Aimez vos ennemis ». Comment est-ce possible? C'est Dieu qui donne la force. C'est Jésus qui assure la victoire dans le combat, le pouvoir d'aimer. Et l'apôtre s'est mis à prier au garde-à-vous. Il a supplié le Seigneur de lui venir en aide. Et tout à coup, la pensée d'Étienne, le martyr qui priait pour ses ennemis, alors qu'il était lapidé, lui vint à l'esprit, et Jean-Baptiste décapité. À l'instant, devant l'exemple de ces témoins de Christ, pourtant hommes de la même nature que nous, Tapozzo fut délivré de la tentation. « Je faisais une faute, dit-il. Il est écrit dans la Bible, « Ceux qui tournent vers toi les yeux, c'est-à-dire vers Jésus, sont rayonnants de joie. Et moi, je regardais les petits gâteaux. » C'était dérisoire. Et il se mit à louer Dieu avec foi pour la victoire qui triomphait de la haine et l'amour de Dieu surnaturel se répandit dans son cœur. Avec courage et force, il s'adressa au chef de camp qui pouvait l'exterminer à l'instant. « Chef de camp, lui dit Tapozzo, vous êtes un pauvre homme et je vous aime de tout mon cœur par la grâce de Dieu et je prie pour vous, vous en avez rudement besoin. » Et il ajouta « Vous permettez que je reparte à ma baraque ?» Yavol ! Lui cria le chef de camp. Il rugissait comme un tigre. C'est lui qui était en colère. Tapozzo rejoignit sa misérable paillasse, tenaillé par la faim, fatigué du combat, mais le cœur joyeux. Il avait surmonté la tentation si forte de haïr par la grâce de Dieu. Et il murmurait : Jésus a tout accompli. Il a vaincu. À nous de saisir la victoire. Sa victoire est ma victoire. 10 ans ont passé depuis ce Noël en camp de concentration. Un jour, alors qu'il évangélisait une paroisse de la Sarre en Allemagne, il demanda au pasteur qu'il avait invité de le conduire faire une visite dans une ville distante de 40 km environ. Tapozzo lui raconta l'expérience de ce soir de Noël et le but de sa visite. Le pasteur était d'abord réticent. Les kilomètres défilaient. Et si on lui achetait une bonne tourte et un kilo de petits gâteaux, suggéra tout à coup le pasteur. Quelle bonne idée ! Sitôt dit, sitôt fait, ils entrèrent dans la première pâtisserie qu'ils aperçurent. Bientôt, ils s'arrêtèrent au numéro 7, dans une certaine rue, chez un certain monsieur. Le cœur de Tapozzo battait très fort. Derrière cette porte de bois, il y avait cet homme qui l'avait martyrisé, maltraité, qui lui avait cassé le bras par 3 fois à coups de matraque. Ce bras qui depuis ne s'était d'ailleurs jamais remis. Tapozzo frappa à la porte. « Herein !» C'était lui. Il reconnaissait sa voix. Il avait blanchi. Il avait dû se cacher après la guerre sous un faux nom, par peur de la vengeance des hommes et du jugement. Il ne reconnut pas Tapozzo. « Bonjour, monsieur Intel. Chef de camp Intel. Je suis le numéro Intel. Du camp Intel, de l'année Untel, lui dit Tapozzo. » Le chef de camp, démasqué, se mit à blêmir et à trembler. Sa femme et ses 2 jeunes filles à pleurer. « Alors, vous venez pour vous venger, » marmonna-t-il en allemand. « Yavol, vous savez, monsieur le chef de camp, il y avait toujours là, en attente, une histoire de petits gâteaux. Et nous venons vous en parler avec l'amour de Jésus. Et maintenant, voyez-vous, monsieur le chef de camp, le pasteur et moi avons soif. Est-ce que madame serait disposée à nous faire une tasse de café ?» La dame se mit tout de suite à le préparer. « C'est moi qui commandais dans cette maison, c'était moi le chef de camp, » dit avec humour Tapozzo. N'oubliez pas, monsieur le pasteur, dans la voiture, les petits gâteaux et la tourte. » Et il ajoute, on se mit à table, 10 ans plus tard, en famille, avec du café et des petits gâteaux. C'était un silence complet. Mais Tapozzo et le pasteur le rompirent en chantant tous les 2 un cantique. Puis ils firent la prière. Tapozzo s'adressa alors en ces termes au chef de camp. C'était un homme effondré qu'il avait devant lui. « Cher monsieur, n'ayez aucune crainte. Nous ne venons pas pour nous venger, mais pour vous parler de l'amour de Jésus. Comme je vous en ai parlé là-bas dans votre camp ce soir de Noël. Jésus vous aime. Vous portez sur votre cœur et sur vos épaules un grand fardeau de péché. Vous avez peur de l'avenir, peur de l'enfer. Jésus veut vous délivrer. » Ils parlèrent longtemps, puis se quittèrent. Pendant 2 ans, le pasteur visita cette famille une fois par mois et tous les 4 se sont convertis. Ils sont devenus enfants de Dieu, rachetés par le sang de Jésus, complètement transformés. Au brigand sur la croix qui se repentait, Jésus aussi, dans son amour, a pardonné. La douloureuse épreuve de Dapuzzo dans le camp de concentration n'avait pas été vaine. Dieu s'est servi de lui pour amener à la conversion le chef de camp et sa famille et bien d'autres encore. Voilà, mes amis, nous voulons maintenant ouvrir la parole de Dieu dans le premier livre des Rois, au chapitre 21, mais avant cela, nous allons prier encore. Nous te remercions, Seigneur, de cette possibilité, de ce privilège que nous avons encore ce soir d'entendre le beau témoignage de ton amour manifesté, de la façon dont un véritable chrétien a pu aimer ses ennemis et a pu être pour eux un moyen de salut. Merci Seigneur, béni soit ton nom. Et merci parce que tu es encore ce Dieu de grâce, ce Dieu qui veut encore pardonner aux pécheurs que nous sommes, qui veut encore nous attirer à toi, qui veut nous sauver encore Seigneur. Et merci parce que tu utilises encore ta parole pour qu'il puisse en être ainsi en ce jour. Sois glorifié mon Dieu. Amen. Voilà mes amis, ouvrons ensemble la parole de Dieu dans le premier livre des Rois au chapitre 21, où nous lirons du verset 1er jusqu'au verset 29. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jisréel avait une vigne à Jisréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth, « Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Akab rentra dans sa maison, triste et irrité, à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jisréel, « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi tu l'esprit triste ne manges-tu point ?» Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jisréel et je lui ai dit, « Cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors Jézabel, sa femme, lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël ? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jisréel. » Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. « Publiez un jeûne. Placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. » Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur avait fait dire, d'après ce qui avait été écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, « Naboth a été lapidé et il est mort. » Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, « Lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jisréel qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. » Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jisréel afin d'en prendre possession. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie de Tishbite en ces mots. « Lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël, à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur ? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. » Akab dit à Élie, « M'as-tu trouvé, mon ennemi ?» Et il répondit, « Je t'ai trouvé, parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël, et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baécha, fils d'Achija, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. » L'Éternel parle aussi sur Jézabel. Et il dit, « Les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jisréel. » Celui de la maison de Nakab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens. Et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. « As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi ? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. » Mes amis, le plus grand péché qu'un homme puisse faire, c'est de crucifier Christ. Aujourd'hui, le péché que la parole de Dieu reproche aux hommes, à tous ceux qui vivent en notre temps, sans exception, c'est d'avoir crucifié Christ. Et c'est à cause de cela qu'ils sont appelés à se repentir par les serviteurs de la parole de Dieu qui ont été envoyés par le Seigneur. Mais voilà quelqu'un qui va dire « crucifiez Christ ». Mais je n'ai jamais crucifié Christ. Comment cela serait-il possible puisque Christ a vécu il y a près de 2000 ans et qu'à ce moment-là, je n'étais pas né ? On ne peut tout de même pas m'accuser, me condamner pour un péché que je n'ai pas commis moi-même. Et pourtant, voici notre passage qui nous décrit quelque chose de semblable. Dans ce récit, nous voyons que le plus grand péché d'Akab a été celui qu'il n'a pas commis lui-même. Et c'est pourquoi nous pourrons voir successivement trois grands points de la suite de notre message. En premier, l'attitude coupable d'Akab, image de celle de l'homme en général et de l'homme d'aujourd'hui en particulier. Ensuite, en deuxième, le plus grand péché d'Akab, qu'il n'a pas commis lui-même, image de la crucifixion de Christ. Et en troisième, comment Akab peut être pardonné et le travail du serviteur de Dieu dans ce sens. En premier donc, parlons de l'attitude coupable d'Akab, image de celle de l'homme en général et de l'homme d'aujourd'hui, quel qu'il soit. Considérez que le forfait affreux dont il est question de ce chapitre a démarré de la façon la plus banale qui soit. Un gamin qui a déjà plein de jouets envoie un autre qui ne possède pas, entre les mains d'un de ses petits camarades. Ce dernier n'a que ce jouet-là. L'autre, hyper gâté, veut absolument le jouet. Le propriétaire ne veut pas ni le donner, ni le vendre, ni l'échanger, d'où trépignement, hurlement, bouderie de la part de celui qui n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Qui n'a jamais vu ou entendu parler d'une histoire de ce genre ? Les hommes sont de grands enfants. Malheureusement, s'ils se laissent aller, les conséquences sont beaucoup plus tragiques que pour les petits. Considérons donc divers aspects de l'attitude coupable d'Akab. Et en premier, premier aspect, c'est la mauvaise attitude d'Akab à l'égard de ses propres biens. C'est ce qu'on voit dans le verset 1 à 3, par exemple, où il a un palais qu'il pense être son palais. Il a des vignes, des terres, des jardins qu'il pense être ses propres biens. Il a de l'argent dont il est persuadé que c'est son argent, qu'il peut en faire ce qu'il veut. Et quand il voit la vigne de Naboth, il veut l'acquérir pour que ce soit sa propre vigne, qu'il puisse en faire son jardin potager et qu'il puisse ainsi agrandir son domaine royal et augmenter son propre confort et ses propres aises. Remarquez que ses intentions ne sont pas mauvaises au départ. Il propose une transaction financière, un échange qui commercialement serait même plutôt avantageux pour Naboth. Il doit y avoir en lui, quelque part, une certaine sincérité. Mais voilà le problème, c'est qu'il tombe sur quelqu'un qui a une conception toute différente des biens qu'on possède et de la façon dont on doit les gérer. Naboth pense qu'en toute chose, il faut d'abord chercher la volonté de Dieu et non pas ses propres aises. C'est l'Éternel en premier, comme on le voit indiqué au début du verset 3. Ensuite, Naboth sait que, quoi que les autres disent, la vigne ne lui appartient pas. C'est l'héritage de ses pères, comme il le dit clairement. Il ne peut pas en faire ce qu'il veut. Il doit la retransmettre en bon état à sa famille, à ses enfants. Il en est le gérant. Il en a la responsabilité pour un temps. Et il sait que la vigne, si elle doit être vendue, ne peut l'être que jusqu'à l'année du prochain jubilé. Mais il sait aussi que le roi, ayant mis la main dessus, aurait bien du mal à lui rendre son terrain au jubilé. Alors il ne peut pas le lui céder. Ah, si Achab avait eu une bonne attitude à l'égard de ses biens propres, s'il avait considéré qu'il était un gérant de son domaine et de ses terres, s'il s'était rappelé qu'un jour, il lui faudra rendre compte à Dieu de la manière dont il a utilisé son temps et de tout dont il régnait, il faudra rendre compte de son administration. Certainement, il n'aurait pas agi ainsi. Il n'aurait pas mal agi. Il n'aurait pas convoité. Mais au contraire, il aurait félicité Naboth pour sa fermeté et sa fidélité. La base du péché dans la vie des hommes, c'est celle-là. Ils ne réalisent pas qu'ils sont des gérants. Ils se croient propriétaires de leur temps, de leur argent, de leur corps, de leur vie, de leurs occasions, de leur famille même, et que sais-je encore. Alors ils veulent faire ce qui leur plaît, ce qui les conduit de plus en plus loin dans une attitude de désobéissance et de culpabilité de plus en plus grande. Le deuxième grand point concernant cette attitude mauvaise d'Achab, c'est son esprit de mécontentement et de convoitise particulièrement visible dans le verset 4. Et je dirais que ceci suit directement la mauvaise attitude de départ dont nous venons de parler. Achab se met à considérer uniquement ce qu'il n'a pas et n'attache plus aucune valeur à ce qu'il a. À le voir triste et malheureux sur son lit, on pourrait vraiment croire qu'il s'agit d'un pauvre misérable qui manque de tout. Il avait tous les délices de Canaan, ce beau pays. Il avait toute la richesse d'un royaume. Il avait à sa disposition tous les plaisirs de la cour. Il avait tous les honneurs et tous les pouvoirs du trône. Mais tout ceci n'était rien pour lui tant qu'il n'avait pas la vigne de Naboth. Combien cet esprit de convoitise aussi est quelque chose de considérablement développé dans notre monde. On n'est jamais content de ce qu'on a. On voit quelque chose que l'autre a, on veut la même chose. Savoir du jeu d'ordinateur pour les enfants, à la belle voiture ou à la belle maison pour les plus grands. Et tant qu'on ne l'a pas, on finit vraiment par se croire le plus malheureux. Et puis en même temps, une troisième chose encore qu'on peut voir chez Achab, c'est qu'il ne supporte pas d'être contrarié. C'est dans la deuxième partie du verset 4. Il ne pouvait pas supporter le désappointement. Cela le marquait au plus profond qu'on s'oppose à lui dans ses désirs. Il en devenait parfaitement malade de vexation. Son orgueil était mortifié de ce qu'un simple sujet de son royaume ait pu ainsi lui résister. Et ainsi, en plus de la contrariété, il y avait de la fierté blessée, l'impression d'avoir perdu la face, alors que ce n'était évidemment pas du tout là le but ou l'intention du fidèle Naboth. Et là encore, que d'hommes qui peuvent être trouvés largement coupables, du plus grand au plus petit. Il y a en eux un orgueil qui fait qu'ils n'acceptent pas d'être contrariés. Pourquoi, dans notre société, y a-t-il parfois de telles manifestations qui peuvent aller si loin, et une répression qui, elle aussi, peut aller très loin? C'est en grande partie, souvent, parce qu'aucune des deux parties n'accepte de perdre la face, parce qu'on ne veut pas être contrarié dans ses projets et ses désirs. C'est bien là la nature pécheresse de l'homme qui est ainsi. Et puis, le quatrième défaut, ou du moins aggravation de son caractère, c'est qu'il demeure dans cet état. Et parce qu'il demeure dans cet état, ça va être la cause d'un mal plus grand encore. Qu'il ait été contrarié momentanément de ce que ses plans étaient bousculés peut se comprendre. Mais il aurait dû se secouer, se changer les idées, se concentrer sur une autre entreprise. Après tout, on ne réussit pas toujours tout dans la vie. Mais son péché s'est aggravé parce qu'il est resté dans ses mauvaises pensées, dans son orgueil blessé. Il est resté dans son ressentiment envers Naboth et dans la pitié de soi. Et ses pensées ne se sont évidemment pas améliorées de cette manière-là. Elles se sont transformées en haine contre Naboth. C'était finalement lui, Naboth, le responsable de son propre malheur, en est-il arrivé à penser. Et ainsi, ses pensées sont devenues de plus en plus mauvaises et l'ont rendu prêt à laisser s'accomplir le crime affreux qu'il aurait refusé avec indignation au début. Remarquez que c'est juste au moment où il devient prêt au mal que Jézabel arrive. Jézabel, c'est sa femme, et en même temps, c'est un véritable démon. Elle est possédée par le diable. Et sous prétexte de consoler son mari, elle va nourrir son orgueil et sa passion. Elle va souffler pour les attiser sur les charbons ardents de ses corruptions. Et c'est ainsi que ce grand péché va finir par s'accomplir. Et voici une description exacte de ce qui se passe quand un homme, aujourd'hui comme autrefois, se laisse aller à cultiver de mauvaises pensées. Il en a été ainsi depuis le début, quand Caïn a eu de mauvaises pensées envers son frère Abel. Pourtant, Dieu l'avait averti. Le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui, lui avait-il dit. Mais Caïn ne s'est pas confié en Dieu. Il s'est complu dans ses mauvaises pensées. Et c'est pourquoi il est marqué qu'il était du malin et qu'il tua son frère. Que d'hommes aujourd'hui qui sont dans une attitude coupable devant Dieu à cause du ressentiment, de la haine, des mauvaises pensées, de la jalousie, du mécontentement, de la convoitise. C'est bien la description de leur état que celle que nous pouvons faire d'Akab d'après notre texte. Et puis en cinquième, concernant Akab, nous voyons que par ses mauvaises dispositions, il invite et encourage Jézabel à faire le mal. Ce qu'on voit bien au verset 6 et au verset 8. Il va chercher auprès d'elle consolation et compréhension, alors qu'elle est de si mauvais conseils et de si grande méchanceté. Il raconte l'histoire à sa propre manière, celle qui l'arrange. Le simple fait de passer sous silence la mention de l'Éternel que Naboth avait faite, le fait vraiment passer pour le méchant et Akab pour la victime. Il laisse à Jézabel toute liberté de faire le mal, puisqu'elle le flatte et va dans le même sens que lui. Il lui laissera donc son papier à en tête, son sceau, c'est-à-dire la libre disposition de sa signature. Qu'elle fasse ce qu'elle veut, pourvu que lui n'ait pas à se salir les mains. Quel abandon de responsabilité coupable! Même si ce n'est pas lui qui a signé, devant Dieu, il sera reconnu coupable premièrement, avant même Jézabel, dans la sentence que l'Éternel prononcera contre lui. Et aujourd'hui, que d'hommes qui en sont là ! Le rejet, le refus des responsabilités au niveau social, familial, éducatif, moral, spirituel, politique. Ils ont confié ça entre les mains, je ne sais pas, du maire, du député, de l'assistante sociale, du professeur, du prêtre, du confesseur, suivant les cas et les situations. Et c'est à cause de cela que le mal se multiplie et s'aggrave. Les hommes ne prennent pas leurs responsabilités, et surtout leurs responsabilités devant Dieu. Et c'est à cause de cela qu'ils sont coupables. Et puis enfin, ce qui l'intéresse surtout, c'est le dernier point concernant les failles de son caractère, c'est ce qu'on voit dans le verset 7. Ce qui l'intéresse surtout, c'est de satisfaire ses envies. Ah, elle le connaît bien, Jézabel, son Akab. Elle sait comment le faire marcher. Allez, va manger un bon repas comme tu les aimes. Va te réjouir et t'amuser. Je vais t'arranger ton affaire pendant ce temps-là. Et Akab y va, il marche dans la combine. Et pendant qu'il mange, boit et se réjouit, un horrible forfait est en train de s'accomplir, une injustice affreuse. Mais lui n'en sait rien, ou plutôt ne veut rien en savoir. « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde, aurait-il pu dire en se lavant les mains, comme Pilate le fera pour Christ des siècles plus tard. Mais il n'en est pas moins coupable, et coupable pleinement, en tout cas, c'est l'opinion et le jugement de Dieu. Et coupable tout autant, aujourd'hui, ceux qui veulent vivre pour eux-mêmes, quand beaucoup meurent dans la misère. Souvenez-vous du récit du mauvais riche et du pauvre Lazare, qu'a raconté le Seigneur Jésus. Ceux qui veulent profiter de la vie pendant que beaucoup manquent du nécessaire. Et puis tout aussi coupables, ceux qui veulent garder la parole de Dieu pour eux, alors qu'il y en a tant qui meurent sans Christ. Que d'hommes coupables et coupables encore sur tous ces points. Mais tous ces péchés nous amènent au plus grand des péchés. Et ça, c'est notre deuxième chapitre maintenant. Le péché qu'Akab n'a pas commis lui-même, mais dont il est coupable, image de notre crucifixion de Christ. Voyez comme Naboth a été mis à mort, et voyez, en parallèle, comment Christ a été crucifié. Naboth était innocent et juste, il a été tué à cause de son innocence et de sa justice. Christ, bien plus encore, a été innocent, il était le juste, que nul n'a pu convaincre de péché. Et parce qu'on ne supportait pas la perfection de ses enseignements et de sa convoitise, on l'a tué. Ensuite, deuxième parallèle frappant, les autorités du temps ont été utilisées pour faire condamner Naboth. Akab, Jézabel, les gens de la ville de Jisréel, les anciens, les magistrats, tous coupables. Les autorités du temps de Christ à Jérusalem, eh bien ça a été semblable. Le Sanhédrin, le souverain sacrificateur, Ponce Pilate, le gouverneur romain, le roi Hérode, tous ont agi ou laissé faire pour sa condamnation. Et puis, une troisième ressemblance frappante, c'est que les apparences religieuses ont été utilisées pour couvrir ce crime dans les deux cas. Au verset 12, il est marqué « Ils publièrent un jeûne ». Et quand ils ont voulu crucifier Jésus, Ils ont cherché aussi toutes sortes de subterfuges religieux pour le faire mettre à mort, disant « Nous avons une loi, et d'après cette loi, il doit mourir, parce que lui, qui est un homme, se fait Dieu. » Dans les deux situations encore, de faux témoins ont été utilisés, c'est ce qu'on voit au verset 13. De méchants hommes qui ont servi de garant pour l'exécution de Naboth et celle de Jésus-Christ. Oui, en ce qui concerne Christ aussi, de faux témoins ont été utilisés, bien qu'ils ne soient même pas vraiment arrivés à faire concorder leurs faux témoignages. Et puis il nous est dit que Naboth a été mis à la tête du peuple, au verset 12, c'est-à-dire accusé face au peuple, et en butte ensuite aux mauvaises paroles et aux mauvais traitements de la populace. Et quel mauvais traitement Christ a-t-il eu à subir? À quel mauvais traitement n'a-t-il pas été exposé de la part des soldats romains? Comme la foule s'est écriée à son sujet, qu'il soit crucifié et que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'est encore à la tête du peuple qu'il a été mis quand il a dû porter sa croix dans cette foule allant vers le mont Calvaire. Et puis il nous a dit que Naboth a été conduit dehors pour être mis à mort au verset 13. Là, hors de la ville, c'est là qu'ils l'ont assassiné. Et c'est là, hors de la ville, que notre Seigneur Jésus-Christ a été crucifié. C'est là qu'il a agonisé, qu'il a été jusqu'au bout raillé, moqué, blessé, craché, frappé. C'est là qu'il a tout accompli jusqu'à la fin pour notre pardon, pour notre salut, pour notre plein pardon et notre plein salut. Et c'est pour cela que nous sommes invités à aller à lui hors du camp, à sortir pour aller à lui en portant son opprobre. Mais voici notre troisième grand point, qui sera aussi le dernier. Le travail du serviteur de Dieu, c'est-à-dire comment Achab peut être pardonné. Et c'est ici l'entrée en scène d'Élie le Tishbite, serviteur de Dieu entre les serviteurs de Dieu, auquel va être confiée une tâche difficile, celle d'apporter le message de Dieu aux pécheurs rebelles. Et la tâche est difficile en effet. Dès qu'Achab voit Élie, il sait que ce n'est pas pour lui compter fleurette que le prophète est venu. Dans le fond, il sait bien qu'il est coupable. Et s'il dit « M'as-tu trouvé mon ennemi ?» c'est parce qu'il pense que la meilleure défense, c'est l'attaque. Le péché et les démons n'ont jamais apprécié d'être dénoncés, d'être dévoilés. Déjà du temps où Jésus était sur la terre, quand il est arrivé dans la synagogue où était le démoniaque, celui-ci s'est écrié « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre !» Alors que Jésus était venu pour tout le contraire, c'est-à-dire chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ainsi pour Élie, il faut qu'il dénonce le péché. Et vous pouvez considérer qu'il y a 7 points dans le travail d'Élie qu'on peut discerner du verset 19 au verset 29. En premier, il lui faut dénoncer le crime le plus grave, celui contre Naboth, début du verset 19, assassin et voleur. Ensuite, il lui faut dénoncer le fait qu'il s'est vendu pour faire le mal. C'est ce qu'on voit au verset 20 et au verset 25. Et puis en troisième, il lui faut annoncer le jugement et le châtiment de Dieu sur lui, là, soit la perdition éternelle, du verset 21 au verset 24. Et puis en quatrième, il lui faut dénoncer l'idolâtrie dans laquelle il s'est plongé. Et puis encore, il lui faut dénoncer la mauvaise influence de laquelle il n'a pas voulu se séparer, dans ce même verset 25. Et en sixième, il faut que dans tout cela, il y a un appel à l'humiliation profonde. C'est ce qu'on voit au verset 27. Et il faut qu'il y ait aussi un message de grâce pour celui qui s'humilie. C'est ce qui ressort des versets 28 et 29. C'est exactement le même travail, le même message que tout vrai serviteur de Dieu a aujourd'hui devant lui. En premier, dénoncer le crime le plus grave. C'est le crime contre Christ. Achab a été coupable à cause de sa mauvaise attitude, même s'il ne l'a pas commis directement. Et tu es coupable devant Dieu pleinement à cause d'une mauvaise attitude semblable, même si tu n'as pas crucifié Christ directement. Ensuite, dénoncer pour faire le mal. Naboth ne s'est pas vendu. Naboth n'a pas vendu. Il y a des choses qui ne se vendent pas. Mais ceux qui vendent leur âme pour des plaisirs, pour une réussite, pour des richesses, pour une gloire, et ne veulent pas venir à Christ pour avoir ces choses, doivent être dénoncés comme coupables et grandement coupables devant Dieu. Et puis en troisième partie de ce message, de cette mission, annoncer le jugement et le châtiment de la perdition éternelle. Le grand trône blanc, l'éternité de souffrance, là où leur ver ne meurt point et où leur feu ne s'éteint point, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Et puis, il faut encore, en quatrième, dénoncer l'idolâtrie. L'idolâtrie de tout ce qu'on fait passer avant Dieu, dans nos pensées et dans nos affections. Et vous avez encore la dénonciation des mauvaises influences, des mauvaises compagnies dont on ne veut pas se séparer pour se joindre au peuple de Dieu. Parce qu'on ne veut pas prendre position et qu'on veut profiter à la fois du monde et des bénédictions du Seigneur. Or, l'Écriture nous dit clairement que celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et puis vous avez cet appel à une profonde humiliation. Car si Dieu avertit de cette manière, c'est pour pousser le coupable à la repentance. C'est vrai, nous voyons la manière dont Achab s'est humilié de façon profonde dans ce passage. Voyez comme il a pris cela comme une attitude qu'il a poursuivie pendant tout un temps, jusqu'à ce qu'il reçoive de la part du prophète le message de la grâce de Dieu. Oui, c'est notre septième point, la grâce de Dieu pour celui qui s'humilie. Oh, la puissance d'une vraie humiliation devant Dieu. Oh, l'amour de Dieu qui accepte cette humiliation et qui, sur cette base, accepte de pardonner de si grands crimes, une si grande culpabilité. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Il vaut la peine de venir à un tel Dieu, en s'humiliant profondément devant lui. Et plus on le fera, plus aussi nous délivrera et nous fera miséricorde et grâce. Ah, il te faut reconnaître aujourd'hui que tu es coupable de ce péché que tu n'as cependant pas commis toi-même. Que tu es coupable d'avoir négligé Christ, de l'avoir méprisé, de ne pas t'être tourné vers Dieu comme ce devrait être le devoir premier de tout homme. Que tu n'as pas cherché premièrement son royaume et sa justice. Et ceci est dû au fait qu'en réalité, tu as vendu ton âme, tu t'es vendu toi-même à toutes sortes d'idoles, de passions vaines et funestes, qui ont pris dans ton cœur la place première qui revient légitimement au Seigneur. Et que si tu t'es vendu ainsi, c'est pour faire le mal plus encore. Car voici, ton existence est un véritable catalogue de mauvaises pensées, de mauvaises paroles, de toutes sortes de mauvais comportements, de toutes sortes d'occasions manquées de faire le bien. Que tu aurais dû faire bien des fois et que tu n'as pas fait, de toutes sortes de situations où tu as fait le mal en pleine connaissance de cause. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, le chemin du salut ne peut pas passer ailleurs pour toi que par une profonde humiliation, par une reconnaissance et une confession à Dieu de tes nombreux péchés, par une véritable repentance, un vrai désir d'être changé par Dieu. Car c'est ainsi et ainsi seulement que la voie de la foi te sera ouverte, que ton âme sera purifiée par le sang de Christ et que tu naîtras de nouveau pour la vie nouvelle et la vie éternelle. Amen. Amen. Te remercions, Seigneur, et nous te bénissons pour ta parole encore par laquelle tu parles à nos cœurs, par laquelle tu parles à nos âmes, Seigneur, parce que ton désir est de nous sauver, Seigneur, de nous arracher à cette existence de perdition, de nous arracher à ce monde de perdition, Seigneur, pour nous faire marcher en nouveauté de vie et pour nous faire nous diriger sur le chemin du ciel. Merci mon Dieu, béni soit ton nom. Et c'est toi qui vois et qui connais chacun de ces bien-aimés qui a pu entendre ta parole en ce jour encore. Et merci Seigneur pour l'œuvre que tu fais dans ces cœurs et dans ces vies, par ta grâce et par ta puissance. Merci pour le travail de salut que tu veux accomplir pour ceux qui se repentent et s'humilient de tout leur cœur. Merci mon Dieu pour la grandeur de ta miséricorde à l'égard des plus grands pécheurs, sois glorifié mon Dieu. Amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Eh bien mes frères et sœurs, mes amis, nous avons aussi des annonces qui aujourd'hui sont assez un petit peu plus longues que d'habitude. Je vous rappelle que le Premier ministre a confirmé jeudi matin que la jauge d'accueil maximale dans un lieu de culte sera de 30 personnes jusqu'au 15 décembre. Et ceci nous oblige à nous adapter pour notre fonctionnement. Et nous ne serons pas prêts pour le dimanche 29 au matin à l'église. Il n'y aura donc pas de culte à l'Assemblée ce jour-là. Mais la prédication en ligne sera disponible ainsi que le WhatsApp de l'église comme ces dernières semaines. Par contre, il sera bon de faire le ménage de la salle dimanche après-midi ou soir pour préparer les réunions qui vont avoir lieu la semaine prochaine. Donc, il y a des volontaires pour ce ménage. Eh bien, ils peuvent nous appeler dès que possible. Merci d'avance. Il y aura donc aussi réunion de prière à l'église, mercredi soir à 18h30. Mais nous allons la dédoubler. C'est-à-dire qu'il y aura la même réunion le vendredi soir à 18h30. Donc, mercredi soir et vendredi soir. Ceci toujours à cause de la limite de 30 personnes. Il faudra donc s'inscrire cette fois-ci pour cette réunion-là, soit pour l'une, soit pour l'autre. Vous pouvez vous inscrire sur le site ou en nous téléphonant. Vous pouvez le faire dès maintenant. Et les inscriptions seront closes mardi soir, si vous entendez bien, mardi soir pour cette réunion de prière, afin que nous puissions organiser cela convenablement. Il nous faudra aussi plusieurs volontaires mercredi soir pour la désinfection après la réunion. S'il y a des volontaires pour cela, merci aussi de nous appeler dès que possible. Et puis ensuite, il faudra également envisager le ménage de la salle pour samedi prochain, donc en préparation du dimanche 6, donc c'est-à-dire le ménage de la salle, ce serait le samedi 5. Et là encore, les volontaires peuvent nous appeler. Et voici le gros morceau maintenant, c'est que le dimanche 6 décembre, nous envisageons de faire 4 cultes sur la journée. Le matin à 8h30, puis le deuxième culte à 10h45. L'après-midi, il y aura un culte à 14h15 et un autre culte à 16h30. Encore une fois, à cause de ces 30 personnes maximum par culte, il va falloir essayer de se répartir équitablement sur ces 4 horaires. Alors pour cela, vous pourrez commencer à vous inscrire à partir du dimanche 29 au soir pour un des 4 cultes du 6 décembre. Les inscriptions finiront jeudi soir, soit en ligne, soit par téléphone. Donc, je répète, pour le culte du 6 décembre, commencez à vous inscrire le dimanche 29 au soir et ça finira le jeudi soir. Vous pouvez vous inscrire à l'horaire qui vous convient, dans la limite des places restant disponibles, ou mieux encore, si vous le pouvez, proposer un horaire le matin, un autre l'après-midi, si cela vous convient. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui pourra nous aider aussi pour gérer, jongler un peu avec cette complexité. À ce moment-là, on pourra vous prévenir le samedi pour que vous puissiez savoir à l'avance la meilleure solution qu'on aura trouvée. Là, je parle pour ceux qui sont prêts à n'importe quel horaire le dimanche. Et ceux qui s'inscriront après le jeudi soir devront s'adapter aux créneaux qui resteront disponibles. Merci de votre compréhension pour essayer de gérer tout ça. D'autre part, nous apprenons que la nouvelle attestation disponible à partir du 28 novembre comportera une case spéciale pour ceux qui se déplacent jusqu'à un lieu de culte, et ceci sans limitation de distance. Donc même à plus de 20 km de chez soi, pour le culte, on peut se déplacer. Donc pour récapituler, par conséquent, réunion de prière mercredi soir ou vendredi soir à 18h30, inscription entre ce soir et mardi soir de préférence. Ça c'est première chose. Ensuite le culte du dimanche 6 décembre, premier à 8h30, deuxième à 10h45, troisième à 14h15, quatrième à 16h30. On prend les inscriptions à partir de dimanche soir et jusqu'à jeudi soir de préférence. Et merci à celles et ceux qui se porteront volontaires pour le ménage de la salle et les désinfections après les réunions. C'est une situation un peu compliquée, mais qui ne devrait pas durer normalement. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde en lui. Amen.